Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans l'émission Droit et Citoyenneté, votre magazine des promotions des droits et de la citoyenneté sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous parlons aujourd'hui de l'autonomisation économique de la femme congolaise. Que faut-il faire pour renforcer le pouvoir économique de la femme? On en parle dans ce numéro du magazine Droit et Citoyenneté que présente Jody Daniel Nkashama. Tati Mapuku est à la réalisation, Willem Lungamba à la mise en onde sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute. Encore une fois, ravi de vous retrouver dans ce magazine Droit et Citoyenneté qui s'épanche sur l'autonomisation économique de la femme congolaise. La participation des femmes à la vie économique et l'accroissement de leur pouvoir d'action dans ce domaine sont essentiels pour renforcer leurs droits, leur permettre d'avoir la maîtrise de leur vie et d'exercer une influence au sein de la collectivité. L'autonomisation économique des femmes est un moyen de promouvoir l'égalité des sexes. Quelle est la situation économique des femmes en République démocratique du Congo? Madame Scholastique Maindo, experte à l'ONU Femmes, chargée de l'autonomisation économique de la femme.
La situation de la femme en République démocratique du Congo est un peu comme la situation du Congo, ça veut dire difficile. Les femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes, ça fait 51-52% des femmes. Et dans ces pourcentages de femmes, il y a au moins 70%, bien sûr, de la population, donc aussi des femmes qui sont dans les milieux ruraux, et même celles qui sont en ville, que ce soit celles qui sont dans les milieux urbains comme celles qui sont dans les milieux ruraux, la situation reste difficile parce que dans des conditions où tous les signaux sont rouges, eh bien le poids le poids de la maison, le poids de toutes les questions domestiques, de la nourriture principalement, les poids des problèmes de la santé, tout ça repose principalement sur les épaules de la femme. Et donc toutes les femmes dans tous les milieux, dans quelques milieux où elles se trouvent, elles sont en train de chercher absolument à résister. Les femmes développent donc la résilience, mais aussi les femmes développent le moyen de pouvoir atténuer la situation qui est difficile. Elles s'adaptent, elles cherchent absolument, elles créent plusieurs moyens, plusieurs ressources de survie. Elles cherchent à créer des richesses et des ressources de plusieurs manières, que ce soit celles qui sont dans la ville, elles sont dans le commerce, celles qui sont dans les milieux ruraux, elles sont dans l'agriculture, qu'elles multiplient les différentes cultures, les manières de transformer, les endroits pour vendre. Donc les femmes sont dans toutes sortes d'activités et pour essayer de survivre et faire en sorte que leur famille ne puisse pas mourir de faim. Donc la situation est quand même difficile.
Le chômage des hommes bat son plein et les femmes emportent le fardeau. À cause de l'analphabétisme, bon nombre d'entre elles ne sont pas qualifiées pour certains emplois plus rémunérateurs. Cependant, elles se démarquent par des bonnes capacités entrepreneuriales au travers des activités génératrices des revenus. Il apparaît pertinent de concentrer le travail de développement sur cette force qu'elles détiennent. C'est ce que fait l'association villageoise d'épargne et de crédit avec en sigle. Les membres de cette association, particulièrement les femmes, cotisent et peuvent obtenir des crédits pour développer leur petit commerce. Suivez le témoignage de cette maraîchère que Tati Mapuku a rencontrée dans la commune de Kasavubu, non loin du marché Gambela.
Bon, empruntons l'argent quand tu empruntes, tu mets ça dans tes activités et puis tu viens rembourser. Nous donnons la solidarité et puis l'épargne selon tes possibilités. Parfois, je cotise 2 000, 10 000, 8 000. Comme moi, j'avais emprunté l'argent, j'avais un problème de la maison pour tous les mains à la maison. Bon, j'avais utilisé cet argent pour la construction.
Est-ce que le fait de vous affilier à ces groupes, c'est avantageux?
Oui, c'est avantageux.
En quoi?
Bon, je peux dire que c'est une économie forcée. Même si tu n'as pas les fonds, mais tu vas forcer pour que tu donnes. Mmh. Et puis, quand il y a un problème, tu peux venir emprunter. Pour lui demander pour les emprunts là de 50%, ici nous empruntons avec 10%. 10% de l'intérêt chaque mois. Comme moi, si j'emprunte l'argent, je n'ai pas acheté les fumées pour travailler parce que je suis maraîchère. Les engrais, les grains, oui, ça m'aide toujours. Ça m'a vraiment une grande aide.
Comment?
Donc quand, par exemple, j'ai besoin d'argent, j'ai une autorisation de retirer, d'emprunter et de rembourser.
Ah, on dépend toujours de ton mari?
Je ne compte plus sur mon mari, hein, parce que je me considère comme une veuve debout.
Comment ça?
Hein? Comment je peux m'expliquer? Moi, je suis considérée comme veuve debout, parce que j'ai un mari qui est quelque part, mais qui ne fait rien. Ce que je fais, ça m'aide. Parfois, j'ai un problème dans ma famille. Je résous avec ces petits commerces. Quand je peux avoir des problèmes dans mon foyer, je les résous avec ces petits commerces. Donc, ça va.
Okay.
Mais pour les maris, non.
Mais j'ai vu aussi la dimension solidarité. Vous cotisez aussi pour la santé, pour les autres.
Nous cotisons pour la santé. Parce que bon, c'est un corps qui peut tomber malade. L'enfant qui a moins de 18 ans peut tomber malade. Avec notre caisse de la solidarité, en tout cas, ça va.
Quel est le but de ces programmes dénommés Association villageoise des crédits et d'épargne avec en sigle Jules Difoyamé, coordonnateur?
Nous avons lancé en 2014 le programme AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit, qui a pour objectif ces femmes-là, ils ont comme objectif épargner, accès au microcrédit, opportunité des affaires et faire face à des exigences. Au fait, Mastercard en 2014 nous a accordé une bourse vers Logotomé où nous avons appris ces programmes intitulés la méthodologie des AVEC, Association Villageoise d'Épargne et de Crédit. Alors, ces AVEC là, au fait, ce que nous trouvons là d'importance, c'est l'éducation financière. Et puis, il y a une dimension solidarité. Donc, deux choses importantes qui se trouvent dans ce programme-là. L'éducation financière de la population, qui n'a pas la culture d'épargne et de crédit. Outre ça, vous avez la dimension sociale, la solidarité. Le partage des risques, déjà, ça s'incarne dans un groupe. Ils ont acquis déjà l'habitude de se cotiser 500 francs pour que quand quelqu'un est malade, on fait face. Donc les 30 personnes du groupe font face au problème d'une personne. Comme vous venez de voir, une maman qui vient de perdre sa mère, une femme qui vient de perdre sa mère, vient de bénéficier 80 000 francs au groupe 36. Donc c'est au hasard, on a raconté ça, mais ça se passe comme ça. Il y a un trésor caché dans les AVEC. C'est comme des formes de classe où on peut verser des connaissances, des intelligences sociales. Donc c'est vraiment, ce sont des véritables outils de développement.
Est-ce que les AVEC permettent quand même à la femme de devenir autonome après avoir épargné et fait des emprunts?
Ça serait très bien quand eux-mêmes les membres donnent des témoignages, mais j'ai vu des cas, rien que la semaine passée, des groupes se sont partagés après avoir obtenu plusieurs crédits successifs, plus de 12 crédits par an. Les fonds qu'ils ont épargnés durant l'année, j'ai vu une maman, elle est partie acheter un congélateur. Vous verrez, maman, il veut dire que j'ai scolarisé mes enfants grâce à ça. Vous verrez, les mamans vous disent que depuis que je suis dans un groupe d'épargne, même l'alimentation est équilibrée. Vous verrez que le groupe d'épargne devient une forme d'ouverture aux activités génératrices des revenus.
Et ici, nous sommes venus, il y a des dames qui ne sont pas là, qui sont allées au marché parce que les camions viennent d'arriver, elles doivent aller récupérer leurs marchandises pour les vendre.
Heureusement, tu viens raconter ça. Si vous avez raconté, c'est les 30 mamans qui est là, ici à Kassavubu, qui vendent à l'Opala. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont venus partir récupérer les marchandises et vendre. Donc, les groupes d'épargne, c'est vraiment convient pour l'autonomisation des femmes parce que ça pose d'abord problème que la femme commence à faire quelque chose. Donc, elle est obligée, la première semaine, si son mari lui a donné l'argent pour la première cotisation, la deuxième cotisation, vous verrez qu'elle va commencer à réfléchir. Donc, dupliquer des groupes d'épargne, c'est pour l'intérêt du gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que, imaginez, ces outils de travail arrivent jusqu'au fin fond. Mais ces femmes vont produire. Et ils sont encadrés, en plus, ils sont encadrés. Ils ne vont pas produire pour produire, mais ils sont vraiment encadrés. Elles deviennent réellement autonomes. Une femme qui rentre à la maison avec 500 000, qu'elle a eu les crédits, les microcrédits à partir de son groupe-là, il acquiert déjà cette aptitude. Il peut ouvrir ses activités génératrices de revenus. Il y a aussi la sécurité, la paix. Ce sont des crédits souples. Hein? Ce ne sont pas des formes de crédits vautours, mais des crédits qui sont souples. De façon qu'elle va travailler, elle vraiment, elle, à partir de ces activités-là, elle paye ses taxes et ça contribue dans les PIB du pays.
Ouais.
Imaginez que nous dupliquons ces outils dans des villages. Est-ce que vous vous rendez compte combien le gouvernement va créer? Et je vous informe que les AVEC, ils peuvent ouvrir, ils peuvent se développer pour donner naissance à des coopératives durables. S'ils ne donnent pas de coopératives, ils peuvent donner une mutuelle de santé durable. Pourquoi? Parce que les membres sont contrôlés.
Ce type de projet a déjà fait école dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ajoute Jules Difoyamé. Au Togo, par exemple, les associations villageoises d'épargne et de crédit contribuent au développement socio-économique du pays.
Au Togo, les AVEC ont maintenant une autre dimension, se sont enracinés. Les AVEC participent au développement du pays. Nous sommes encore dans la phase d'implantation. Mais à Lomé, vous verrez, l'AVEC tel produit tel jus, l'AVEC tel fabrique de la viande à partir de soja. Les femmes qui sont là, elles sont déjà autonomes. Ces femmes qui sont là, elles participent à la maison, leur mari nous respecte beaucoup. Imaginez une maman qui vient seulement faire quelques minutes dans une réunion, il laisse 5 000. Un jour, il les ramène à la maison 500 000. Mais ça poussait les hommes d'aller trouver d'autres groupes d'épargne. Parce que maintenant, ce sont des crédits sans condition. Parce que comme c'est dans le but d'apprentissage, en tout cas, il n'y a pas tellement de conditions. Nous avons des outils de bon sens, hein? L'éducation morale. Donc, il y a un civisme, il y a le civisme là. Les membres qui sont là, ils sont d'abord conscientisés. Les agents de travail, de terrain, travaillent beaucoup sur le mental des membres. Et vous avez vu quand ils se sont réunis là-bas, il y a une discipline. Ils travaillent dans la discipline parce qu'on leur dit que la force d'un groupe d'épargne, c'est de la discipline. Parfois, la discipline manque dans plusieurs endroits, mais au moins dans une avec, c'est discipliné et c'est facile à contrôler.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Mounazo et Jean-Didier Ogobani vous amènent dans des merveilleux coins et recoins du pays. Le samedi à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
C'est quoi l'autonomisation économique de la femme et quelles sont les conditions pour que cette autonomie soit effective? Madame Scolastique Maindo est experte à l'ONU Femmes chargée de l'autonomisation économique de la femme.
On pourrait dire que c'est la capacité que peut avoir une femme ou la capacité que peuvent avoir les femmes pour pouvoir choisir d'abord ce qu'elles doivent faire. La capacité qu'elles ont de prendre conscience des potentialités qui sont en elles et de pouvoir créer les ressources, accéder à ces ressources, mais surtout participer à l'affectation de ces ressources. Et pour finir, le niveau le plus élevé de l'autonomisation, c'est donc de pouvoir contrôler les ressources qui sont disponibles, qui sont en présence. Par exemple, une femme d'un milieu rural, je parlerai aussi du milieu urbain, une femme qui est dans le milieu rural, elle a fait les champs, elle a fait les champs des riz, et puis elle a récolté. Mais comme elle est une femme mariée, par exemple, elle a récolté, elle a vendu les riz. Mais si cette femme, à ce niveau-là, on peut dire qu'elle a donc créé les ressources, elle a accédé aux ressources, parce que comme c'est elle qui a fait quand même les champs, elle a sémé, elle a entretenu les champs, elle a récolté, et maintenant elle est en train de vendre, ça donne de l'argent, donc elle a accédé à ses ressources. Mais si maintenant l'argent qu'elle a obtenu quand elle a vendu, elle doit tout apporter à l'homme, et l'homme décide tout seul de faire ce qu'il veut, comme on a vu dans plusieurs milieux, eh bien cette femme-là, on ne peut pas dire qu'elle est autonome, même si on la voit vendre cette femme-là à un niveau très bas d'autonomie, parce qu'elle n'est pas arrivée au niveau de participation et surtout elle n'est pas arrivée au niveau de contrôle. Dans ces conditions-là, donc, pour qu'on puisse dire que cette femme devienne autonome, il faut que la relation entre cet homme, l'homme et cette femme-là puisse absolument changer. Si la relation ne change pas et que donc la femme elle ne participe pas à l'affectation des ressources, elle ne participe pas au contrôle des ressources qui sont disponibles, cette femme, on ne peut pas considérer qu'elle a vraiment un niveau élevé d'autonomie. Et donc, bien sûr, maintenant, en parlant de femme qui est totalement autonome ou qui a atteint un niveau élevé d'autonomie, c'est donc une femme, si elle est dans les milieux ruraux, elle a travaillé, elle a récolté, elle a vendu. L'argent est arrivé à la maison. Ils ont probablement décidé, son mari et elle, d'affecter cet argent pour dire, voilà, ça on achète les pagnes, ça on fait telle chose, ça on sera pour les soins des enfants, ça c'est pour la santé, pour l'alimentation et tout. Et puis donc elle a quand même, elle a les derniers mots. Si une femme ne peut pas arriver à décider de toutes les ressources qui sont en présence, cette femme ne peut pas considérer qu'elle est autonome. Celle qui est en ville, elle travaille, elle gagne 200 dollars, mais quand elle arrive à la maison à la fin du mois, les 200 dollars sont déposés sur la table et c'est l'homme maintenant qui décide, bon ça, on a trop de problèmes dans la famille, je crois que c'est moi ici, moi je prends cet argent pour faire telle chose. Même si l'homme décide par exemple d'aller acheter des casseroles pour la femme parce qu'il manque de casseroles et de verres, je crois que c'est à la femme de s'en occuper. Mais quand l'homme, il prend cet argent, il part, il achète, même s'il achète un téléphone pour la femme, un joli téléphone, il dit voilà, j'ai vu que ton téléphone était abîmé, je t'ai abîmé un téléphone. Cette femme-là, même si c'est elle qui a travaillé et que c'est elle qui a amené l'argent à la maison, et que maintenant, à partir du moment où l'affectation des ressources, elle n'y a pas participé, elle ne le contrôle pas, elle ne décide rien, on ne peut pas considérer que cette femme-là a un niveau élevé d'autonomie. Donc vraiment, c'est une question de confort, une question d'accès, une question de prise de conscience, une question de participation, mais surtout une question de contrôle.
Prenons par exemple les cas de ces femmes qui n'ont pas beaucoup étudié, qui sont dans les petits commerces, qui se débrouillent, qui vendent des macalas, qui vendent du pain et autres pour venir en aide, pour subvenir aux besoins de leur famille. Est-ce qu'on peut dire que ces femmes-là sont économiquement autonomes?
Pas vraiment, parce que bon, c'est vrai qu'elles accèdent donc aux ressources. Elles peuvent même arriver peut-être à pouvoir les contrôler, si vous voulez, jusqu'à un certain niveau. Mais aussi, il faudrait que les femmes, quand elles accèdent à ces ressources et qu'elles arrivent, elles peuvent participer à toutes les étapes, mais que ça puisse résoudre leurs problèmes. Si l'argent auquel elles accèdent, les ressources qui sont en présence, ça ne permet pas aux femmes de pouvoir résoudre leurs problèmes et des problèmes fondamentaux, elles ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Je prends, parce que la femme, elle a les rôles dans les secteurs, elle a les rôles de production, les rôles de reproduction, et puis les rôles maintenant sociaux, communautaires. Alors, si la femme, même si dans la partie de son rôle de production, elle accède aux ressources, elle les crée ou elle peut les contrôler, mais si ça ne peut pas résoudre les problèmes qui sont liés à son rôle de reproduction, ça veut dire les besoins de la maison, l'alimentation, la santé, tout ça, si la femme ne peut pas résoudre ces différents problèmes, on peut dire que cette femme-là, elle n'est pas encore autonome, parce qu'elle va être bloquée, certainement quelque part, et elle devra dépendre d'autres personnes. Mais une femme qui a atteint un niveau élevé d'autonomie, c'est donc une femme justement qui peut commencer une action seule, aller avec ça jusqu'au bout, elle crée la ressource, comme je l'ai dit, elle a les stratégies, elle résout les problèmes qui sont en présence sans qu'elle ne puisse absolument dépendre de quelqu'un d'autre. Elle peut collaborer, elle peut avoir des partenaires, mais elle-même, elle doit avoir suffisamment de ressources en elle, elle a des potentialités, mais aussi des ressources pour résoudre, surtout comme j'ai dit, des problèmes qui se posent à sa présence.
Ukapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, de 10h05 à 11h sur Radio Ukapi.
Après 4 ans de fonctionnement, Les associations villageoises d'épargne et de crédit se consolident à Kinshasa avec environ 30 groupes implantés dans quelques communes de la ville. Suivez le témoignage de cette dame sur les avantages dont elle a bénéficié.
Je suis veuve depuis 1996, que mon mari était décédé, et je souffrais vraiment. Mais de 1996 à 2014, je suis présidente du premier groupe nommé groupe Bolingo. Alors, juste ma fille cadette devrait commencer les études supérieures à l'IEC. Et je n'avais pas beaucoup de difficultés parce que si la bis, l'argent de frais académiques, je prélève et puis je paye, on dirait j'avais un autre soutien. Je sentais que comme si mon mari était ressuscité. Parce que normalement, ça ne devrait pas être ma charge. Mais Dieu est donc, il y a l'apparition des AVEC qui m'a soulagé. Et aujourd'hui, on l'avait déjà collé. Alors, nous étions... Parce que j'allais tourmenter même les membres des familles. Mais il est là, je ne sais pas si je l'ai tourmenté. Parce que c'est qu'on dit que... Mieux vaut m'apprendre à pêcher que de me donner un poisson. Alors celle-ci, c'est la pêche permanente. Nous sommes très ravis de ça. Ce n'est pas une banque comme telle qui est formelle, mais nous apprenons les gens, les femmes, même quelques hommes à épargner. Parce que c'est quelque chose que nous ne savions pas d'abord. Mais maintenant, comme nous épargnons, ces personnes-là sont maintenant capables d'aller prélever un montant auprès des banques formelles.
Quelles sont les actions de l'ONU Femmes en RDC pour renforcer l'autonomisation économique des femmes? Scolastique Maindo, experte à l'ONU Femmes.
En ce qui concerne l'ONU Femmes, nous intervenons déjà dès le départ, je peux dire, nous intervenons à Kinshasa, mais aussi dans les provinces comme le Nord Kivu, le Sud Kivu. On a eu aussi des activités dans les passés, dans les Haut-Katanga et aussi dans les Kasaï orientales. Alors, ce que nous faisons, nous organisons les femmes. Actuellement, nous intervenons principalement dans les secteurs de l'agriculture où nous intervenons, nous appuyons les femmes qui sont dans la production, mais aussi celles qui sont dans la transformation. Et nous voulons même aller jusqu'au niveau de la commercialisation. Dans quel sens? C'est que nous pensons qu'une fois que les femmes sont ensemble et sont en train de produire, si elles n'accèdent pas aux activités à valeur ajoutée, donc la transformation, ce qu'elles vont produire ne pourra pas les aider pour résoudre vraiment des problèmes. Les cash est très faible et comme on a dit justement, comme ce n'est pas à valeur ajoutée, les femmes peuvent aujourd'hui produire les manioc, les pondous principalement. Si nous arrivons le soir, ces pondous-là n'est pas vendu, les pondous vont être jetés. Et donc nous voulons vraiment, nous pensons qu'il faudrait intervenir sur toute la chaîne de valeur dans les secteurs agricoles. Donc nous travaillons avec les femmes rurales, mais aussi les femmes qui sont dans les PME, dans les milieux urbains, où nous pensons qu'il faudrait qu'elles puissent transformer. J'ai parlé des pondous, mais on peut tout transformer, et on peut transformer en tout cas beaucoup de choses. On peut transformer les maniocs, on transforme les riz, on transforme les maïs, et puis on peut aller dans toutes sortes de transformations. On peut non seulement les transformer, mais il faut les conditionner, il faut bien les présenter. Il faudrait surtout que les femmes puissent, ce qu'elles sont en train de produire, que ça puisse respecter les standards internationaux, les normes et les standards internationaux, pour que ce que les femmes sont en train de produire aujourd'hui ne puisse pas se limiter seulement à satisfaire le besoin, le marché locaux, mais que ça puisse aussi traverser les frontières pour aller vers les marchés internationaux. Parce que déjà, le pays étant entouré de 9 pays, nous avons donc un très très grand marché qui est là et qui peut aussi recevoir les produits locaux, produits des femmes, qui sont transformés, mais bien conditionnés et surtout bien présentés, respectant les standards internationaux.
Quel message pouvez-vous adresser à toutes ces femmes qui n'ont pas assez de ressources, qui ont des difficultés économiques, qui ne savent pas comment subvenir aux besoins de leur famille?
La première chose d'abord, c'est que la femme doit croire en elle, qu'elle puisse prendre conscience qu'elle est capable. Parce que les femmes ont généralement beaucoup de potentialité, mais elles n'ont pas toujours confiance en elles. Il faut que la femme puisse croire en elle, qu'elle puisse avoir confiance en elle-même, qu'elle puisse effectivement s'asseoir et réfléchir. La réflexion, c'est quelque chose de fondamental. Et si une femme pense qu'avec ce qu'elle a comme potentialité, elle ne peut pas aller de l'avant, il faut qu'elle renforce ses capacités. Parce que le statut de la femme l'aide justement, disons, pour autonomiser une femme, ça demande parfois qu'on puisse travailler, surtout sous son statut. Et donc, si par exemple, une femme est aujourd'hui en train de vendre les macales ou vendre n'importe quoi, et qu'elle est avec ça, elle ne sait peut-être pas lire et écrire, qu'elle prenne le temps d'apprendre à lire et à écrire. Ça pourra changer son statut, parce que ça lui permettra d'accéder à certaines ressources où il faudrait qu'elle lise, qu'elle comprenne comment ça se passe. Il y a actuellement en RDC beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de structures qui sont disponibles aussi pour encadrer les femmes. Que la femme puisse s'informer, qu'elle puisse donc améliorer ses connaissances dans tous les secteurs, qu'elle puisse apprendre comment gérer, même si c'est que le produit est petit. Mais si c'est bien géré, ça peut l'aider pour aller de l'avant. Que les femmes puissent aussi se mettre ensemble. Parce qu'on dit l'union fait la force. Donc les femmes, en se mettant ensemble, elles peuvent faire que, si par exemple, elles sont dans une filière quelconque, si je rentre encore dans l'agriculture, donc on pourra voir les femmes qui sont, celles qui sont en train de produire, ce ne sont pas nécessairement celles qui vendent. Donc, au lieu que tout le monde puisse aller dans la production, d'autres femmes peuvent identifier les maillons de la chaîne de valeur. Toi, tu peux être dans la commercialisation, l'autre peut être juste dans les sacs, dans l'emballage. Quelqu'un d'autre peut être juste pour tisser ces sacs-là, par exemple, si ce sont des sacs. L'autre peut être
dans les transports, dans la distribution.
Et donc, les femmes peuvent, comme ça, en se mettant ensemble, elles peuvent identifier le besoin de la société et en se mettant ensemble et en cherchant souvent, comme je dis, il y a des organisations, des organismes aussi qui encadrent et qui appuient les femmes, elles peuvent arriver à résoudre beaucoup de problèmes. La femme surtout, qu'elle puisse se faire confiance et qu'elle puisse améliorer ses connaissances, parce que la connaissance, c'est une très très grande richesse, qu'elle puisse croire en elle, ça va aller.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève le magazine Droit et Citoyenneté consacré à l'autonomisation économique de la femme. Jeudi, Daniel Kachama était à la présentation avec le concours technique de William Lungamba, Tati Mapoukou à la réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.